1938, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, la naissance de la police moderne.
Il n'est point de gouvernement qui puisse maintenir les droits des citoyens sans une police sévère, Saint-Just.
D'histoire. Présente dans toutes les sociétés humaines, la police est une des plus vieilles institutions du monde, une des plus critiquées aussi. S'il n'y a point de nation qui ne connaisse l'utilité de la police, disait Fouché, il n'y en a pas non plus qui lui accorde de l'estime. Ancien ministre de la police, Fouché, qui fut pendant la Révolution et l'Empire, un des hommes les plus détestés de France, savait de quoi il parlait. Il avait 30 ans lorsque le 14 juillet 1789, il a vu la chute de l'ancien régime et l'impuissance de la police à prévoir et à empêcher la révolution. Ce jour-là, le dernier lieutenant général de police de Louis XVI, dépassé par les événements, avait remis ses pouvoirs à un tout nouveau comité, chargé par la mairie de Paris de demander au gouverneur de la Bastille les clés de ce qui fut pendant des siècles le symbole de l'absolutisme.
Nous voulons la Bastille! Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville.
Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous.
Je n'ai jamais entendu parler de votre comité.
Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale.
Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir.
Vive la nation !
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Paolo Napoli, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était la chute de la Bastille et le début d'une révolution qui a transformé ou aboli toutes les institutions de l'ancien régime et parmi elles bien sûr la police, transformée au point d'ailleurs que dans un livre, La naissance de la police moderne, vous dites que la police française d'aujourd'hui est née à cette époque, il y a 200 ans.
Oui, on peut dire ça dans la mesure où on entend que c'est à cette époque-là que se pose une question cruciale. Comment réduire les pouvoirs de la police à l'intérieur des limites de la loi. C'est à ce moment-là qu'on peut parler effectivement de modernisation de la police, dans la mesure où l'arbitraire a été, par contre, avait été la catégorie fondatrice de la police d'ancien régime. Donc c'était un pouvoir qui n'avait pas prévu une limite objective à son envergure.
C'était quoi justement la police avant 1789, Paolo Napoli?
Disons, qu'on peut dire que la police d'ancien régime, c'était la police qui embrassait l'administration telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était une institution qui s'occupait de bien-être moral et physique de la population entière.
Ah oui, il y avait toutes les activités, c'était une police à tout faire. Il y avait bien sûr le maintien de l'ordre, il y avait la voirie, les subsistances, les incendies, la surveillance des prisons, la Bastille notamment.
Il y avait la Bastille, évidemment, et il y avait la surveillance sur les mendiants, donc tout sur les marginaux. Il y avait les contrôles sur les commerces, et donc ça c'était un rouage fondamental de la police d'ancien régime, donc les contrôles sur l'activité économique, il y avait les contrôles sur les corporations. Donc il y avait tout ce que un pouvoir public peut déployer pour gouverner une population et un territoire.
Alors ce qu'on lui reproche, c'est pas ses activités en fait, c'est le fait qu'elle est entre les mains du roi. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites absolutisme.
Absolutisme dans la mesure où il n'y avait pas une transparence des procédures qui permettait de détecter la démarche de l'action policière. L'action policière était toujours entourée dans les mystères. Comme le disait Fontenelle, qui disait la police doit être partout et nulle part, tout en alimentant ce imaginaire dans la police de lieutenant le.
Oui, c'était un lieutenant général de police, voilà, qui était chargé de cette police.
Ça, effectivement, c'est la création, c'est le moment, la consécration de la police classique, si on peut dire, avant de la police moderne. C'est en 1667 qui est instituée cette figure.
Sous Louis XIV.
Sous Louis XIV. Et d'abord pensé par, pour Paris, et après, ça allait être étendu à tout le royaume, parce qu'on se rend compte que pour l'ordre public, il ne suffit pas l'exercice de la justice. Il faut un pouvoir réglementaire supplémentaire.
En tout cas, cette police d'ancien régime n'était pas très populaire. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, la police, la veille de la Révolution, a mauvaise presse. D'abord, les arrestations par lettres de cachet sont de plus en plus vécues comme arbitraires. Sur simple dénonciation, en effet, sans jugement, une personne peut être envoyée en prison. Un exemple de lettre de cachet adressée au gouverneur de la Bastille. « Je vous envoie le dénommé F. C'est un très mauvais sujet. Vous le garderez 8 jours. » Signé Sartine, le lieutenant de police. Hein, c'était l'équivalent du préfet de police. Alors ce Sartine a très mauvaise réputation, son nom, rapporte un chroniqueur, son nom est synonyme de grand inquisiteur, et si la police lui doit des améliorations, ce n'est pas sans de grandes injustices et de dures persécutions vis-à-vis des classes inférieures de la société. Or les incarcérations peuvent être beaucoup plus longues que 8 jours, comme celle par exemple de Jean de Latude, embastillé pour avoir été insolent envers la Pompadour. Il passera plus de 26 ans en prison. « N'ayant connu aucun juge, dit-il, je ne suis ici que sur l'ordre de Madame de Pompadour, qui a juré que sa vengeance serait éternelle. » Alors, du temps de la Pompadour, le lieutenant de police s'appelle Berryer. En lui aussi, il a beaucoup fait pour l'image d'une police corrompue, hein, vouée avant tout aux besoins personnels des grands de la cour. En Berryer, par exemple, est chargé, hein, c'est incroyable quand on voit ça, il est chargé par la Pompadour de rabattre des jeunes filles pour le parc aux cerfs. Le parc aux cerfs, c'était le bordel personnel du roi. Alors, Berryer reçoit, par exemple, un jour, cette offre d'un père de famille. « Serait-ce trop espéré, monseigneur, de votre bonté, que de solliciter pour ma fille, âgée de 15 ans, l'entrée dans la bienheureuse maison où l'on forme celles de son sexe qui sont réservées à l'ardent amour de notre bon roi. » Alors, au bas de cette lettre, Berryer, visiblement intéressé, a noté « avoir ». Alors, à Berryer, on doit aussi le système des moutons. Les moutons, c'était les indiques, en fait. Hein. Il n'y avait plus de 10 000.
Ça n'a pas changé après la Révolution.
Voilà, les espions. Alors, les espions, qui à l'époque, c'est beaucoup plus amusant, se cachent sous des déguisements invraisemblables. Le mouton est dans la même journée chevalier de Saint-Louis, garçon perruquier, prieur tonsuré et marmiton, raconte le chroniqueur Sébastien Mercier. Il est tout yeux et tout oreille. Il est partout. Dans les régiments, les abbayes, les couvents, les hôpitaux. Il interprète jusqu'à votre silence. Il sait ce que vous pensez. Et Sébastien Mercier ajoute, c'est de cet épouvantable lit que naît l'ordre public. Alors la méfiance à l'égard de la police est telle que le peuple de Paris en vient en 1750 à l'accuser d'organiser même des enlèvements d'enfants. Depuis 8 jours, écrit le chroniqueur Barbier, depuis 8 jours, on dit que dans Paris, des exempts de police déguisés rôdent dans différents quartiers, enlèvent sur ordre des enfants et les mettent dans des carrosses, sans doute pour les envoyer travailler en Amérique. L'émeute populaire est devenue générale.
Et l'émeute viendra 39 ans plus tard, en 1789, Paolo Napoli. Bon, ça c'est vraiment un portrait de la police qui est détestable. On en parle beaucoup à la veille de la Révolution. Tous les Français qui écrivent des cahiers de doléances parlent d'une réforme nécessaire de la police. Ça les préoccupe beaucoup, ça, à la veille de la Révolution.
Absolument. Les problèmes de la police, c'est à l'ordre du jour de plusieurs cahiers de doléances des États, lors des États généraux du mai 1789. Les thèmes récurrents sont les rapports entre justice et police, abolition des lettres de cachet, justement, liberté de la presse et de la censure, parce que ça, c'était un autre élément où la police s'ancrait, donc un contrôle sur l'opinion, finalement. Et une autre exigence manifestée par les tiers états, c'était celle de municipaliser la police. Mmh. Donc éviter que la police devienne un instrument voué à un panoptisme général de l'État. Donc la police doit être ancrée sur le territoire plutôt qu'être un instrument général de la politique de l'État.
Et c'est effectivement ce qui va se passer le 14 juillet 1789, puisque en même temps que la prise de la Bastille, puisque ce jour-là, le 14 juillet, le dernier lieutenant général de police de Louis XVI, Louis Thiroux de Crosne, personne n'en parle, mais c'était lui qui a transféré ses pouvoirs, qui a remis ses pouvoirs au maire de Paris et à la garde nationale, auquel le roi rendait visite, 3 jours après la chute de la Bastille, le 17 juillet 1789.
Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly ?
Oui, votre majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris.
Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un.
S'ils l'ont jugé. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire.
Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général.
Garde nationale. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général.
Sire, si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets.
C'était Louis XVI à l'hôtel de ville, le 17 juillet 89, reçu donc par le maire de Paris, Bailly, et puis par Lafayette, le commandant de la garde nationale. C'est à eux, en fait, que reviennent désormais les pouvoirs de police, Paolo Napoli. En tout cas à Paris.
Oui, là, il faut tenir compte de cette situation transitoire qui se déroule tout de suite après la chute de la Bastille. Alors, c'est le peuple qui s'auto-organise. Donc, il y a une garde nationale qui s'auto-constitue. Qui n'est pas encore reconnu en termes légaux par une assemblée nationale quelconque, et qui confie au maire de Paris la tâche de régler l'énorme problème de l'ordre public. Donc, une fois qu'il y a la disparition de l'ancienne figure du lieutenant de police, il y a une création par les électeurs d'un comité permanent présidé par les prévôts des marchands. Prévôt des marchands, qui était d'ailleurs une figure très ancienne et qui joue un rôle vraiment terminal dans sa longue carrière séculière. C'est dans cette époque-là où Bailly se rend compte qu'il y a une exigence de sûreté qu'il faut absolument à tout prix garantir, et surtout une exigence de légalité de la police.
Et ça, c'est vrai pour Paris. Est-ce que c'était partout, pareil, dans toutes les municipalités, c'est les municipalités qui assuraient les pouvoirs de police à ce moment-là?
Oui, en fait, je vous avais dit que là, il y a une sorte d'autoconstitution de la garde nationale. Il faudra attendre presque 2 ans de débat, enfin, plus que 2 ans de débat, parce que avec les décrets sur l'organisation de la garde nationale, qui sera doté dans le 28 juillet 1791, on aura la institutionnalisation de la nation en armes. Chaque citoyenne, pour être telle, il doit être aussi un soldat.
Il faut rappeler que les officiers de la garde nationale étaient élus, alors chose plus extraordinaire encore, les commissaires de police étaient eux-mêmes élus.
Oui, peut-être là, il faut se rappeler qu'avant, les commissaires étaient en office, donc il y avait la vénalité de l'office.
On achetait sa charge.
Les cas les plus connus pendant l'Ancien Régime, c'était Delamare, l'auteur du fameux traité de la police qui apparaît au début du XVIIIe siècle. Donc c'était une sorte de réaction populaire, l'effet de se réemparer d'un pouvoir à l'égard d'une institution qui doit être tout de même représentative.
En tout cas, cette nouvelle organisation de la police va durer jusqu'en 1792. Là, la garde nationale laisse faire la chute de la monarchie. Elle ne défend pas Louis XVI quand son palais des Tuileries est envahi par la foule. La République est proclamée. On laisse faire aussi les massacres de septembre 1792. Et là, à qui appartiennent les pouvoirs de police maintenant que le roi a disparu? Parce qu'il y a un peu une confusion des pouvoirs. On ne sait pas très bien qui dirige la police. Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est les municipalités, par exemple? Et là, vraiment, on voit apparaître une nouvelle organisation qui est le comité de sûreté générale, Paolo Napoli.
Alors, précisément, le comité de sûreté générale est l'expression de l'évolution des derniers mois. C'est-à-dire que même avant la terreur, il y a eu des épisodes importants qui ont posé les bases de la police qui était en train de se construire. Une de ces moments, deux moments fondamentaux sont repérables. La constitution de la garde nationale dont je vais parler, Et donc la constitution d'une police de sûreté ordinaire, et surtout, et alors ça c'est la conscience assez frappante, 2 jours après la chute de la monarchie, il y a eu l'institution de la police de sûreté générale, c'est-à-dire la police qui s'occupe pas de la sûreté ordinaire, mais là, quand il y a la menace contre l'État, contre les conspirateurs, il faut accorder au pouvoir de police toute l'envergure possible.
Ça devient une police politique, là.
Ça devient une police politique, ça devient une police à la fois politique et secrète. Donc tous les moyens sont accordés pour garantir la révolution, pour garantir les résultats de la révolution. Alors, ce n'est pas un hasard si pendant le débat à l'Assemblée nationale qui anticipe la création de cette police, il y a eu certaines interventions qui effectivement se souciaient de souligner les dangers qui étaient incités dans ce genre de police.
Oui, parce que on sait plus d'abord très bien qui dirige la police. D'abord, il y a un ministre de l'Intérieur qui est apparu déjà avant 1792, l'un des plus célèbres, ça a été Roland. Il y a un comité de sûreté générale qui apparaît en 1792 aussi. Qu'est-ce qui dirige? Qu'est-ce qui a vraiment les pouvoirs de l'actuel ministre de l'Intérieur, autrement dit Paolo Napoli? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque? Est-ce que c'est ce fameux comité de sûreté générale qui, en principe, avait les pouvoirs de police?
Alors, les institutions, alors, les pouvoirs de police est fragmenté parmi nombre d'institutions. Évidemment, il y a un ministre de l'Intérieur qui est l'instance suprême. Mais, surtout, il faut penser que la police relève toujours des municipalités. Donc, il y a les juges de paix, qui sont les institutions chargées à la fois de chercher les coupables et de les condamner. Donc, il y a cette ambiguïté dans la fonction de la police qui n'est pas résolue à cette époque-là. C'est à la fois une institution qui gouverne et qui juge. Et là, il faut dire que c'est assez exemplaire parce qu'on n'est pas encore sorti à l'heure actuelle de cette ambiguïté, de cette nature hybride de la police. C'est une institution qui prévient et qui réprime en même temps.
Et puis surtout, une police qui va être l'instrument de quelque chose de terrible, la terreur justement, annoncée par la loi des suspects, une loi réclamée par Saint-Just à la tribune de la Convention nationale le 17 septembre 1793.
Le propos de cette loi est clair, citoyens. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour.
De la France, on a chassé la noble vermine. On a tout rasé, cassé et mis en ruine. Mais de noble, on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine gay, par la guillotine.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la naissance de la police moderne.
Et c'était la guillotine permanente, chantée par Marc Augeret, évoquant une époque terrible. Paolo Napoli, c'est celle où véritablement la police devient l'instrument de la terreur. À une époque où, comme le disait le procureur de l'époque, enfin le patron du tribunal révolutionnaire, les têtes tombaient comme des tuiles. Ça, c'était un début terrible pour cette nouvelle police.
Oui, à cette époque-là, faire la politique coïncidait avec l'exercice même de la police.
Ouais.
Il y avait une coïncidence frappante entre ces deux notions.
La politique et la justice, d'ailleurs, parce qu'on ne distingue pas bien les deux.
Finalement, la justice était réduite à l'exercice de la police. La justice exige trop de procédures pour que le procès révolutionnaire soit accompli. Il faut des procédures beaucoup plus expéditives, moins formalisées que celles de la justice. Et c'est la loi du 27 Germinal en 2, donc du 16 avril 1794, qui consacre à la police jacobine, la police de la terreur, autour de deux impératifs. Comme dit toujours Saint-Just lors de l'intervention de la convention de 15 avril 1794, purger la patrie de ses ennemis. J'insiste sur l'effet de purger, qui appartient vraiment à la rationalité propre de la police, de l'époque ancienne. Et former une conscience publique. Les deux missions qui sont propres à la police.
Et cette terreur va se retourner d'ailleurs contre Saint-Just, que vous avez cité, contre Robespierre, puisque ils vont eux-mêmes en être des victimes, ils vont être guillotinés en 94. Et alors là, pour la troisième fois, mais sans doute pour la dernière, parce que depuis il n'y a pas eu énormément de changements, on change encore l'organisation de la police. Par exemple, on supprime l'élection des commissaires. Ils sont nommés, je crois, par les municipalités. À ce moment-là, la garde nationale va disparaître pendant un temps. Et là, vraiment, on voit apparaître une police qui ressemble un petit peu à celle que nous avons aujourd'hui, Paolo Napoli.
Oui, Disons que l'événement majeur dans la phase qui suit à la à Thermidor, donc à la, après la après la terreur, c'est sans doute la réorganisation d'une police sur la base nationale. On comprend que surtout de la part du directoire exécutif, qu'il faut un instrument de vigilance totale. Alors, c'est un moment très intéressant, et ça pourrait être vraiment un morceau d'histoire intellectuelle française, celui de se concentrer sur ce moment-là du débat dans les corps législatifs, dans les conseils des anciens et les conseils des 500, lorsqu'il s'agit de discuter cette proposition du directoire exécutif, qui a été faite en 1795, et finalement qui sera adoptée en 1780, le 2 janvier 1796, c'est-à-dire la constitution d'un ministère de la police générale. Ce que veut dire que on consacre la police comme un organe institutionnel, constitutionnel même, ce qui est effectivement un danger dont le fruit, on pourra le constater avec Fouché.
Oui, parce que ce ministère de la police générale va avoir 8 titulaires, donc, avant justement d'être attribué, avant la nomination de Fouché, le 20 juillet 1799, Fouché, pour lequel la police n'était pas seulement l'instrument du pouvoir, elle était le pouvoir.
Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque, mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible. Et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
C'est un extrait du film Le Souper d'Edouard Molinaro avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché. C'est terrible, Paolo Napoli, cette définition que Fouché donne de la police moderne, quand on sait que c'est lui qui en est un peu à l'origine. Pourtant, la police d'aujourd'hui, c'est pas celle que Fouché définissait, invisible, protéiforme, toute puissante. Mais en quoi est-ce que Fouché, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau et de définitif un peu à la police?
Alors, il faut dire d'abord ce que Fouché reprend à la technique policière d'Ancien Régime. Parce que les problèmes de la surveillance, évidemment, c'est pas Fouché qui l'a inventé. Il a, comment dirais-je, érigé un système presque scientifique tout en créant la police de la police secrète, finalement la police politique. Alors, ça, effectivement, les changements qui ont été introduits par Fouché récitent précisément ça. Ça marque effectivement les concepts même des polices. La police après Fouché n'est pas la même police que avant. C'est pas la police bienveillante de l'administration munificente, celle qui prend en charge les besoins de la communauté. C'est plutôt, c'est réduit à être la police de l'inspection et du suspect. Du suspect est érigé en système. Donc il y a une circulation de techniques qui trouve son point de cohérence dans cette formidable machine qui a été mise en place par Fouché. D'où toutes les résistances de ces gens pendant la création du ministère de la police générale, qui craignaient précisément ça. Si on attribue à la police, c'est-à-dire une force matérielle, cette autonomie, cette capacité d'autodétermination, on aura créé un instrument acéphale, capable de tuer toute la liberté.
Mais justement, c'est pas le cas de la police d'aujourd'hui. Paolo Napoli, en quoi Fouché, pourquoi Fouché, est-ce que c'est pas faux d'une certaine manière, pourquoi dit-on que Fouché est le fondateur de la police moderne, c'est pas la police d'aujourd'hui, celle que définit Fouché?
Disons que la connotation actuelle de la police, sa représentation et sa pratique d'ailleurs, correspond essentiellement à cette fonction de vigilance, d'inspection, de prévention, qu'on retrouve dans la police de Fouché. Fouché a quand même introduit une coupure par rapport à la police strictement administrative telle qu'on l'avait conçue avant. Donc effectivement, la police de Fouché, c'est pas la police de Delamare. C'est la police qui regarde vers l'avenir et qui...
Donc c'est pas celle de Sarkozy non plus, ça que je voulais
dire. C'est pas celle de Sarkozy non plus, mais Sarkozy est en même temps un héritier de certaines techniques propre à la police de Fouché. C'est-à-dire que la différence, c'est dans la question de la limite.
Oui, parce que c'est un mot que vous employez constamment dans votre livre, Paolo Napoli, la mesure. Hein. D'ailleurs, votre livre commence par une citation de Marx, la police n'a pas de mesure de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne se donne pas de limite?
Oui. Et d'ailleurs, il faut lire cette affirmation par rapport à ce que, par contre, est la loi. La loi est un critère d'ordre préétabli qui essaye de créer un ordre selon son propre modèle de prescription. Donc c'est la réalité qui doit s'accorder à l'ordre de la loi. Alors que la fonction de la police est certainement dans la direction contraire. C'est toujours d'essayer d'accorder l'autorité aux émergences de la réalité. D'où l'impossibilité de la prédéterminer selon des paramètres fixes comme ceux de la loi. La légalisation du pouvoir de police, c'est évidemment quelque chose auquel aucun état de droit peut renoncer. Mais il faut se rendre compte aussi de cette particularité propre au pouvoir de police.
Merci en tout cas à Paolo Napoli de nous avoir rappelé les origines de notre police moderne pendant la Révolution française, que l'on retrouve aussi dans votre livre, La naissance de la police moderne, publié aux éditions de la Découverte. C'est pas un livre à proprement parler, c'est pas à proprement parler une histoire de l'institution policière, mais une réflexion comme celle que vous venez de développer à notre micro sur les pouvoirs de la police. À lire également Une histoire de la police d'Arlette Lebigre, publié chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre un extrait du film Le souper d'Edouard Molinaro, également des extraits du film La Révolution française de Richard Effron et Robert Henricot. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.fr.